pour continuer à être ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles voient déjà que peut-être éventuellement elles vont devoir renoncer à ce qu'elles ont gagné, si
vous
jamais
voyez, c'est pas toujours difficile de parler de ce genre de problème avec ces enfants, parce que ce que je peux dire sincèrement, que les enfants sahraouis dépassent des fois leur enfance. Elles ont des pensées plus grandes que leur âge. Hein? C'est la situation l'oblige. Un enfant dans une situation de guerre, ce n'est pas un enfant dans une situation de paix. Un enfant dans une situation instable, ce n'est pas un enfant dans une situation qui est stable. Le rêve d'un enfant pendant la guerre, ce n'est pas le rêve d'un enfant qui vit en paix. Les pensées maintenant, les rêves d'un enfant dans les camps des réfugiés sahraouis ne sont pas les mêmes d'un enfant à Genève ou bien à Neuchâtel ou bien à Lausanne. C'est tout à fait différent.
Est-ce qu'une jeune fille sahraoui peut s'imaginer qu'elle a eu des sœurs plus âgées qu'elle qui ont vécu différemment d'elle?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, c'est pas tout à fait profond. Pas tout à fait profond, mais elle sait qu'il y a eu une génération qui a vécu une situation plus dure. Parce que même maintenant, pour la jeune génération sahraoui maintenant, quand on essaie de parler des années 73, 74, 75, 16, où elle était très petite ou bien très jeune, elle commence à savoir que vraiment cette génération a pu se porter beaucoup. Pour elles-mêmes, elles disent que si nous étions à vos places, on ne pouvait pas faire telle chose ou telle chose. Mais grâce à vous, les choses sont arrivées à voir comme ça. Alors, il y a beaucoup parmi elles qui se sont responsables même à aider avec leur niveau culturel, avec leur nouvelle pensée, aider la génération précédente. Pour les enfants, je ne peux pas dire toujours dans le même contexte qu'on peut discuter ou bien du même niveau, mais ce sont des enfants très sensibles à tout ça. Un enfant sahraoui peut facilement sentir les efforts de sa mère. Un enfant, moi par exemple, mon fils de 7 ans, 8 ans, c'est très facile pour lui de sentir les efforts que je fais pendant une journée, ou bien mon travail d'une journée, parce que quand la nuit, des fois, il demande une petite histoire. Mais c'est très facilement que je lui explique. Voilà, Khalil, je suis fatiguée maintenant. On peut laisser ça à demain. Et quand demain vient aussi, je serai crevée. J'ai des invités dans une société sahraoui ouverte. Tu peux avoir des gens jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 3h du matin. Et c'est très facile. C'est malheureux pour moi. Mais lui aussi, c'est malheureux pour lui. Mais c'est très facile qu'il comprend que voilà. J'ai du travail, j'ai des gens, j'étais dans des meetings, des réunions et tout. Il comprend que je suis prise par des grandes responsabilités, mais des fois très douloureuses.
Et quand tu lui racontes des histoires quand même à ton fils Khalil, tu lui racontes quel genre d'histoire? Des histoires de la tradition bédouine sahraoui ou bien des histoires de rêves que tu as pour le futur de l'État?
Surtout des rêves, parce que j'essaie toujours d'inventer des choses. Je ne suis pas spécialiste dans les histoires traditionnelles, c'est ma mère peut-être, des grandes mères qui peuvent dire ça, mais j'essaie toujours d'inventer des choses, bien sûr des fois à propos d'éducation, de nos relations même familiales, comment un enfant peut être poli, comment il peut être fort dans sa classe, comment des fois il peut aider sa mère, la comprendre même. Et des fois quand je commence à dire ou bien inventer des histoires à mes enfants, ils comprennent bien que ça tourne dans nos milieux, notre petit milieu familial. Alors vous voyez, on essaye enfin aussi de leur expliquer ou bien de leur faire vivre la situation de leurs amis ou bien frères dans les zones occupées. Alors il faut les faire toujours sentir qu'ils sont privilégiés, voyez, dans les camps de réfugiés, parce que ce sont des enfants qui ont eu les possibilités d'aller au jardin d'enfants. Ils ont pu avoir des jouets, peut-être ils n'ont pas des jouets privés chez eux, Mais quand ils aillent au jardin d'enfants, ils ont des jouets. Ils n'ont pas des livres privés, d'histoires d'enfants privés chez eux, mais quand ils aillent à l'école, ils peuvent avoir ce genre. J'aime bien s'ils pouvaient le voir chez chaque enfant sahraoui. Il peut avoir des choses pareilles dans sa tente, mais ce n'est pas possible. Ils sont libres à jouer, à s'exprimer, à jouer plein désert. Hein. Chaque enfant sahraoui peut jouer librement, peut porter un drapeau sahraoui. Ils connaissent bien le drapeau sahraoui. Ils commencent à connaître le sens de l'indépendance. Parce que le sens de l'indépendance, comme j'écris une fois dans un article, que l'indépendance pour l'enfant sahraoui et comme Papa Noël pour un enfant en Europe. Parce que vous voyez, un enfant en Europe attend chaque année le Papa Noël parce qu'il aura des cadeaux, il aura des chocolats, il aura des bonbons. Et des fois, il aura des grands cadeaux, une bicyclette par exemple, une belle poupée ou quelque chose comme ça. Un enfant au camp, il faut qu'il attende toujours l'indépendance pour qu'il aura quelque chose. Mon enfant, par exemple, me demande toujours une bicyclette. Mais je lui fais toujours expliquer qu'il faut attendre l'indépendance pour qu'il aura sa bicyclette. Pourquoi ? Parce que c'est une chose qu'on ne peut pas donner à tous les enfants sahraouis maintenant. Seule l'indépendance que peut offrir une bicyclette à chaque enfant sahraoui ou chaque famille sahraoui aura la possibilité de voir une belle maison, une belle voiture, etc. Ce qu'on expliquait toujours, qu'il y aura d'autres enfants sahraouis dans les zones occupées qui n'arrivent pas à savoir leur identité. Ils sont sahraouis, mais ils ne savent pas savoir, et même leur mère, pour leur expliquer qu'ils sont des sahraouis, un enfant par exemple qui a un grand mémé ou dans les camps de réfugiés, ou grand-père dans les camps de réfugiés, ou peut-être un père qui est sorti au front du combat, c'est très difficile à expliquer un enfant sahraoui dans les zones occupées. Il faut être vraiment discrète, dans une situation très horrible pour qu'il arrive à comprendre. Mais malgré ça, les enfants sont très sensibles. Même ces enfants qui sont nés sous l'occupation marocaine sont nationalistes plus que ceux qui sont nés dans les campements de réfugiés. Alors il faut toujours mettre ce trait de lien entre ces enfants à travers des petites histoires, comme quoi un enfant à Laayoune, ou bien un enfant à Smara, ou bien un enfant qui cherche quelque chose qui s'appelle, une belle fille qui s'appelle la liberté, et il fallait qu'il donne beaucoup de sacrifices pour qu'il arrive à voir cette belle fille, etc. Alors c'est des choses qu'on peut toujours inventer pour les enfants, c'est agréable. C'est agréable, bien sûr, un langage avec un enfant, ce n'est pas toujours facile, mais ils sont conscients, ils sont aussi prêts à comprendre beaucoup de choses.
Khadija, alors tout à l'heure, tu émettais la peur que lorsque l'indépendance sera proclamée et que les réfugiés, femmes réfugiées, pourront revenir en République sahraoui pour construire leur pays, et ce sera en principe facile, en guillemets, facile à faire puisque beaucoup de choses sont déjà prêtes. Tu émettais la crainte qu'éventuellement il y ait un retour en arrière dans la situation de la femme. Mais pourquoi ? Est-ce à dire que le contact entre les hommes au front et les femmes dans les camps de réfugiés, par exemple, ne se fait que très peu et qu'à un moment donné, il y aura un fossé important entre les hommes et les femmes ?
Vous voyez, il y a des éléments qui imposent cette crainte. Vous voyez, un élément très important, c'est d'avoir la conscience et se méfier en quelque sorte que beaucoup de responsabilités dans un mouvement de libération sont une obligation de la période transitoire. Alors, il ne faut pas rester dans ce cadre. Alors, il faut être bien formé pour dépasser ce rôle que la conjoncture oblige, et c'est très important. La deuxième des choses, bien sûr, il y aura le retour de ces hommes dont vous venez parler. ces hommes, déjà avec le cessez-le-feu, ils ont commencé à rentrer, à prendre du travail. Maintenant, nous n'avons pas de danger, entre parenthèses, hein, mais demain, avec un retour total de tous les hommes sahraouis des fronts de combat, le problème de travail va se poser.
Dans le sens où les hommes voudraient prendre les places des femmes ?
C'est normal. Il y aura aussi un problème de compétence. Qui est le capable pour continuer ? Qui est le capable de prendre tel poste ou tel poste ? Est-ce que c'est la femme ? Est-ce que c'est l'homme ? C'est une chose à voir. La troisième des choses, c'est ce fondamentalisme qui écrase l'émancipation des femmes, la présence des femmes au niveau des pays du Maghreb. Qu'il faut faire attention, il faut protéger ces femmes, il faut protéger ces hommes même, bien sûr pas au niveau matériel, c'est au niveau de la conscience, au niveau des mentalités, au niveau des mentalités, pour que ces femmes gardent ces places et gardent ce rôle.
Mais dans la tradition bédouine, les femmes ont toujours eu leur place, vous disiez tout à l'heure, donc il y a moins de chances que le fondamentalisme trouve sa place.
Mais vous voyez, nous sommes un pays maghrébin. Hein, nous avons des relations avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie, avec la Libye, mais ça n'arrête pas ça, ça ne s'arrête pas là, parce que le fondamentalisme n'est pas au Maghreb seulement. C'est une tendance, si je peux dire, internationale qui passe partout, non seulement au niveau de la religion musulmane, mais aussi au niveau politique, au niveau d'autres religions, qui fait grandir le danger au niveau international. Alors, nous ne sommes pas une société isolée, hein, loin du contact mondial. Nous sommes au cœur de ce contact. Et avec des générations d'enfants sahraouis qui sont en train de faire l'école en Algérie, en Libye, dans d'autres pays. Alors, il faut un système d'éducation, hein, envers ces enfants, un système aussi d'éducation, de mobilisation en général envers les hommes, envers les femmes. Il faut un dialogue. Il faut un dialogue entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, pour bien comprendre ce genre de problème et que tout le monde aura la conscience de travailler ensemble, de faire une complémentation des efforts, hein, pour le bienvenu de tout le monde.
Les hommes ont un niveau de formation aussi bon ou meilleur que celui que les femmes ont petit à petit acquis dans les camps de réfugiés ou ailleurs,
vous voyez,
puisque vous dites qu'ils sont allés étudier ailleurs.
Oui, vous voyez, les hommes ont toujours les possibilités, parce qu'un homme, par exemple, dans une permission de 15 jours, il peut lire 2 à 3 ou bien 4 livres, hein, s'il a la possibilité chez lui, qu'une femme ne peut pas faire chez elle. Moi, personnellement, c'est très rare que je peux lire chez moi. C'est une situation très difficile. Je dois lire soit au travail, soit chercher un autre coin pour lire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ça, parce que vous ne connaissez pas la situation des camps. Dans un camp, je n'ai pas totalement une vie privée, hein, pour me former, pour m'informer à tout temps, à toujours. Je ne suis pas libre dans ça, parce que je ne prise pas le travail, je suis prise par d'autres relations de chaque jour. La vie un peu serrée ne me permet pas de faire beaucoup de choses. Alors c'est un peu difficile. Et ce qui a donné aux hommes beaucoup de possibilités à se trapper à chaque fois. Alors il y a beaucoup d'hommes qui ont profité vraiment, qui ont profité. En plus, les charges de la femme n'arrêtent pas avec le travail de la journée. On a presque un travail continu. Soit on est dans des campagnes de travail, des campagnes de profiter, de propriété. Nous sommes à l'administration, ou bien à l'école, ou bien à l'hôpital. Mais quand on rentre aussi dans les tentes, on a un travail plus dur, plus dur. Il faut chercher les gens, les enfants, il faut faire le manger, il faut faire la vaisselle, il faut faire le linge, il faut faire le thé, il faut recevoir les gens. Hein, c'est un travail presque continu. Alors je peux dire qu'ils ont eu aussi l'occasion de se former plus que nous.
Mais est-ce que les femmes n'ont pas conquis finalement, malgré tout, une place dans certains lieux importantes que les hommes ne leur revendiqueront pas? Parce que malgré tout, dans toutes les tâches que vous avez citées tout à l'heure, elles me paraissent quand même, entre guillemets, essentiellement féminines, dans le sens où c'est les tâches de couture, c'est les tâches de maison, c'est les tâches sociales, c'est les professions qu'on retrouve habituellement les femmes.
C'est les soucis que nous sommes en train de poser. Nous, comme femmes sahraouines, on discute que ce n'est pas nécessaire que ces femmes restent dans le cadre traditionnel des professions. Ce n'est pas toujours nécessaire l'enseignement, ou bien l'éducation, ou bien l'administration, ou bien la santé. Il faut dépasser aux autres professions nouvelles. Et c'est pour ça que nous sommes en train de chercher des places de formation, des stages pour les femmes sahraouis. Pour l'informatique, l'information, la gestion, d'autres domaines technologiques, d'autres domaines scientifiques que la femme sahraoui n'a pas pu y arriver. Et c'est très nécessaire et ça fait la grande partie pour que ces femmes gardent leur place. Parce que si on n'arrive pas maintenant à atteindre ces places-là, si on n'arrive pas à avoir les possibilités de nous former dans ces domaines, c'est très facile que les hommes allaient les prendre avec les capacités qu'ils ont maintenant, avec la base intellectuelle qu'ils ont, etc.
Alors ça, c'est une chose. Est-ce que vous attendez beaucoup, justement, des contacts avec les femmes que vous avez rencontrées au cours de votre périple? Qu'elles vous aident dans ce sens-là, par exemple? Comment vous espérez atteindre cette formation? Est-ce que c'est en sortant d'Algérie, du Maghreb, ou bien c'est que d'autres viennent vous voir chez vous et partagent leur savoir, leur connaissance?
Oui, vous voyez, il y a deux sortes de formations. Il y a la formation que les femmes sahraouies doivent sortir pour la faire ailleurs. Et il y a l'autre genre, il y a d'autres gens qui devraient aussi rentrer au campement pour aider. Pour le premier, il y a des obstacles qui se posent. Et pour le deuxième aussi, il y a des obstacles. Pour le premier, c'est pas facile de trouver des places ailleurs. Parce que même durant notre séjour, en discutant avec les organisations de femmes, les organisations humanitaires, sont très sensibles à savoir ça et sont prêts à comprendre ça. Mais tout le monde pose le problème financier. Je sais que c'est un problème qui se pose, et surtout avec la crise mondiale économique qui a touché tout le monde. Et beaucoup de ces associations, de ces gens n'ont pas les moyens nécessaires pour nous aider, mais malgré ça, ils vont essayer de faire quelque chose. Pour la deuxième forme de formation, c'est aussi très difficile pour quelqu'un d'Europe de résister dans nos campements. C'est une situation très difficile. Il y a, par exemple, des gens, des professeurs ou bien des institutrices qui se trouvent capables d'être volontiers pendant leurs vacances, etc. Mais des vacances d'été dans les camps, c'est vraiment difficile. C'est très, vraiment difficile. Une Européenne, je trouve, ne peut pas exister ou bien rester 2 mois, surtout le mois de juillet-août, dans un camp de réfugiés. C'est très difficile. Je ne peux pas parler, je veux parler pas des conditions matérielles ou d'alimentation, c'est nécessaire, c'est très difficile, mais seulement du point de vue de la nature, de la chaleur, Hein, c'est très difficile.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de que ces femmes, malgré toute leur bonne volonté, ne pourraient que vous amener leur point de vue de femme occidentale et que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie de partager non plus?
Enfin, nous sommes, pour nous, c'est bien d'entendre toutes les expériences. Ce n'est pas forcément qu'on va prendre tel ou tel, mais je suis sûre qu'aussi qu'on va prendre quelque chose. Il y a des femmes qui essayent d'être compréhensives, qu'elles sont à travers leur niveau intellectuel ou bien expérience, d'arriver à comprendre notre situation. Elles sont des femmes réalistes qui connaissent la situation dans un camp, bien la situation générale dans un mouvement de libération. Elles sont réalistes, elles sont modestes. Elles essayent de nous donner des pensées qui peuvent... nous donner des nouvelles ou bien nous aider à la démarche. Mais aussi, il y a d'autres, et je ne peux pas dire que c'est faux, mais c'est leur capacité, ce qu'elles pensent. Hein, ce qu'elles pensent, et elles n'arrivent pas à comprendre la situation sur place, mais je suis sûre qu'avec une fois qu'elles comprennent la situation, leur explique, c'est très facile pour elles de comprendre. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes à travers cette visite qui nous ont aidées avec beaucoup d'idées, soit au niveau des contacts, soit au niveau de leur expérience, de leur aussi relation, ou bien à travers leur relation avec d'autres mouvements de libération, que c'était très intéressant pour nous.
Alors, pour terminer, peut-être, Khadija, très concrètement, comment vous imaginez le jour où vous pourrez rentrer en République sahraouie? Vous avez déjà dû vous imaginer ce jour-là 50 000 fois dans vos rêves. Comment, très concrètement, vous essayez d'imaginer ce jour-là?
Vous voyez, c'est des fois qu'on essaie de rêver, on n'arrive pas à préciser les choses. Les femmes, maintenant, quand elles pensent au retour, elles disent « Est-ce que je peux supporter ce retour? Est-ce que je serai triste? Est-ce que je serai heureuse ?» Chacune essaye d'imaginer. Alors, il y a des femmes qui disent « Ah non, non, moi je dois rester ici jusqu'à que tout le monde rentre, s'installe, que la situation sera stable. » Il y a celles qui disent « Non. » À la même hauteur que j'ai vécu l'agression, j'ai vécu le bombardement, à cette hauteur où j'ai vécu la sortie douloureuse de mon pays, je dois aussi vivre le retour de mon pays. Comme j'ai vécu le malheur, je dois vivre aussi les instants, hein, les plis riches de mon retour. Alors, je ne sais pas m'exprimer vraiment comment je serai dans ces jours, mais peut-être je serai parmi les premières femmes qui vont organiser ce retour, et ça me donnera la chance de voir les sourires réels des femmes, de voir les yeux qui pleurent, pas parce qu'elles sont malheureuses, mais parce qu'elles sont heureuses de rentrer pour recevoir les parents, pour recevoir leur enfant, pour voir ces maisons qu'ils ont quittées il y a 18 ans.
Merci, Khadija. Voilà, c'est la fin de mon entretien avec Khadija Hamdi, une femme sahraoui de l'Union des femmes sahraouies qui était de passage à Genève lors d'une grande tournée en Europe. Vous pourrez les re-rencontrer vous aussi mardi 11 mai à 20h30 à Genève, au Grutli, dans la salle du CAC, puisque ce jour-là sera montré un film réalisé par deux femmes, Berbel Mauch et Claude Veuille, ce film qui a pour titre Goulili. Goulili veut dire « Dis-moi, ma sœur ». Un film qui était à réaliser sur les femmes sahraouis et comme disent les deux auteurs, voir les femmes sahraouis, c'est avoir envie de les filmer. Leur grâce devant la caméra, leur naturel face au micro séduisent, nous ont séduits en tant que cinéastes et c'est tout naturellement qu'elles apportent un soin particulier à se vêtir en harmonie avec les tentes, les tapis et les couleurs du désert. En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai vu les très belles robes et très beaux tissus dont sont vêtues les femmes sahraouis que j'ai rencontrées et je crois que je suis sûre que ce n'est sûrement pas que pour ça que cela vaut la peine d'aller voir le film « Dis-moi ma sœur ». Donc, pour tout ce qui a été dit, pour découvrir en images la réalité concrète de la vie dans les camps de réfugiés à Tindouf, en Algérie, eh bien, je vous rappelle la date, mardi 11 mai à 20h30 au Grutli, dans la salle du CAC Voltaire. Et la projection de ce film sera suivie d'un débat sur les femmes sahraouis, leur lutte et leurs conditions de vie dans les campements, avec entre autres la présence de Khadija Hamdi que vous retrouverez. Danse berbère endiablée pour terminer cette page du désert réservée au désert. La semaine prochaine, eh bien, dans Remue Ménage, nous parlerons du festival du film de femmes à Créteil, festival où nous sommes allés, Viviane et moi. Et puis, alors, pour une première étape, parce que nous avons plusieurs volets à vous proposer, eh bien, comme première étape, je vous proposerai la rencontre avec Suzanne Austin. Suzanne Austin, qui est une réalisatrice suédoise et qui a gagné. C'est une première fois, je crois, en tout cas depuis les 4 ans auxquels je vais à Créteil, eh bien c'est la première fois qu'une réalisatrice remporte à la fois le prix du jury et le prix du public pour son film. Et donc, je l'ai rencontrée. Nous avons suivi une discussion qu'elle a animée après avoir obtenu son prix pour expliquer un petit peu aux gens et aux femmes présentes comment elle avait réalisé son film. Un film qui évoque la situation d'un jeune néo-nazi en Suède qui se confronte à un moment donné à un psychiatre juif. Ça vaut la peine de donner ces détails parce que c'est leur rencontre et leur affrontement, bien évidemment, qui sera filmé tout au long de ce magnifique film réalisé par Suzanne Austin. Alors, c'est la semaine prochaine dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Et pour terminer, encore quelques notes de musique sur un tout autre registre. C'est Janis Joplin.
Honey, you know I did. But each time I tell myself that I wanna are out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, but 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 now, but